On a parlé quand même de quelque chose qui nous a semblé tout à fait capital. Odile en parle tout à l'heure. Mélanie, tu en as parlé aussi. C'est la notion du parcours de soins. Et la notion du parcours de soins, c'est quand même une notion sur laquelle tout le monde travaille depuis des années et des années. On voudrait savoir un peu comment on va faire en sorte que ce parcours de soins et ce parcours vaccinal, on aimerait savoir d'abord quelles sont les avancées que la crise de la Covid a pu nous faire faire, et puis deuxièmement, quelles sont les préconisations qu'il faut avoir pour faire en sorte de l'améliorer. Et c'est donc le thème de notre table ronde numéro 2 à laquelle je vous convie maintenant. Et je vais demander à Gisèle Schmidt, qui est patiente experte, trésorière de l'association France Spondylo-Arthrite, l'AFS, de mettre sa caméra. Je crois que je ne sais pas si Eric Achula est déjà là, parce qu'il nous avait dit qu'il serait très certainement. Il aurait quelques difficultés à venir avant 10h15, mais il nous rejoindra au cours de la table ronde. Marie-Josée Auger-Caumont, qui est pharmacienne conseillère à l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, l'USPO. Marie, je sais que tu es là. Clotilde Genon, qui est coordinatrice et responsable du pôle de mobilisation associative chez Rénalou. Donc, Clotilde, branchez votre caméra également. Et puis, on aura également à 11h15, et là je sais qu'il ne peut pas nous rejoindre tout de suite, Alain Fischer, qui est donc le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale du gouvernement contre la pandémie du Covid-19. Donc, et je pense que son éclairage sera tout à fait passionnant. Et donc on a une table ronde là qui va être centrée autour du parcours de soins. Je crois que c'est grâce à cette prise en compte du parcours qu'on pourra apporter des améliorations significatives au niveau des différentes personnes, et en particulier celles qui nous concernent aujourd'hui, c'est-à-dire les personnes fragiles en risque accru d'infection et ou immunodéprimées. Alors, Ghislaine.
Alors, merci Olivier de m'avoir invité. Donc, moi, je vais commencer très rapidement. Nous avons travaillé avec l'ARS Grand Est, qui est très dynamique sur le sujet, hein. Pour l'ARS, on a réalisé ensemble des affiches, des très didactiques pour les patients immunodéprimés et surtout avec une bonne compréhension du langage médical. Ça, c'est très important. Avant le Covid, on a distribué et toutes les associations du Grand Est avaient les dépliants pour les déposer chez les dentistes, les docteurs, les pharmaciens, les laboratoires, les kinés, les infirmières et infirmiers libéraux et dans les salles de consultation des hôpitaux. Et ça a très très bien marché. Nous avons aussi également réalisé des grandes affiches à exposer dans toutes les salles d'attente des cabinets médicaux et des hôpitaux pour vaccins, grippe, pneumocoque et autres pour les professionnels de santé. Ça a très très bien marché. Nous avons vu des grandes affiches fleurir dans les CHRU de Metz, de Thionville. Et puis, pour les professionnels vraiment de santé, on a réalisé avec l'ARS une boîte de vaccination. Et effectivement, le docteur Lenné a raison, nous avons fait la promotion de la vaccination. Et je peux vous dire il y a eu un énorme bond de vaccination grippe en 2018 et 2019 par rapport à cette énorme communication. Nous avons aussi, nous, réalisé un petit film de 8 minutes pour expliquer l'utilité de la vaccination chez les personnes à risque, que les professionnels de santé peuvent utiliser dans tous les ETP transversales pour aborder simplement, tout simplement, la vaccination. Nous, dans le Grand Est, nous faisons aussi partie de Vaccilor. C'est une association de plusieurs infectiologues qui a pour but d'informer très largement sur les vaccins et qui organise des conférences animées par les professionnels de santé et surtout par la mairie de Nancy pour le grand public. On est tous conviés, toutes les associations, nos adhérents sont conviés. Et c'est très important d'avoir ce maillage territorial avec les mairies, les ARS, les professionnels de santé, les associations de patients. Comme ça, c'est un maillage au plus complet au niveau de la vaccination. Et on a vu des résultats importants sur la grippe et le pneumocoque dans le Grand Est sur 2018-2019. Après, ça a été le Covid, c'était plus problématique. Maintenant, je vais vous aborder la problématique des bons de vaccination pour la grippe destinée aux patients de moins 60 ans en ALD et dont la diffusion par les ARS n'est pas homogène, ou par la CPAM ou par la CNAM, on ne sait pas, c'est un grand mystère. Donc, nous sommes en ALD immunodéprimés par la maladie et les traitements. Nous devons faire un parcours compliqué pour se faire vacciner en l'absence de bons de vaccination de la CPN. On a vu dans l'enquête à venir que les bons de vaccination, ça représente quand même 33% qui décident les gens à aller se faire vacciner. Alors, moi, je n'en ai pas ce bon. Donc, je vous explique le parcours que je fais et dont des millions d'immunodéprimés font. Il faut que je prenne rendez-vous chez mon médecin, que pour ça, hein. Puisque c'est un rendez-vous pour une chose. Pour que celui-ci, quand je suis présente, puisse rentrer dans son système informatique pour me délivrer le bon de vaccination, c'est un système très spécifique, il bug, pas de chance, je dois revenir. Oula, il me dit, attendez, je vous fais une prescription sur une ordonnance 100% ALD, allez voir votre pharmacien, ça va marcher. Je vais voir mon pharmacien, le pharmacien me dit, ah non, c'est pas le bon de vaccination, moi je vous délivre le vaccin. Mais si je vous vaccine, derrière, j'ai beaucoup de temps administratif pour le faire. Et en période de Covid, je ne peux pas. Donc, voilà le vaccin, débrouillez-vous. Bon, c'est une réalité de millions de personnes. Hein. Nous avons eu beaucoup de retours de cette situation. Maintenant, est-ce qu'on peut élargir les bons de vaccination à d'autres vaccinations, telles le pneumocoque pour les personnes immunodéprimées? Ou carrément le tétanos que tout le monde doit faire. Il reste alors une grande vérité que nos professionnels et nos instances ne savent pas, mais nos vaccins restent dans le frigo. Et quand on nettoie le frigo, on s'aperçoit qu'ils sont périmés, on les met dans la poubelle. Donc, c'est idem, c'est un vrai parcours du combattant. Hein. Ces deux vaccins, c'est un parcours du combattant. Je vais chez mon généraliste, il me fait l'ordonnance. Je vais à la pharmacie, il me donne le vaccin, je le mets dans le frigo, je fais plusieurs épisodes aigus. Donc, je vais voir mon pharmacien sans mon vaccin. Et après, j'y pense plus. Et quand je nettoie le frigo, on retrouve le vaccin. Oh, zut, il est périmé. Poubelle. Et je ne suis pas vaccinée. Donc, il faut simplifier. Le plus simple, je reçois un bon de vaccination. Pneumocoque, tétanos, grippe. Je vais à la pharmacie parce que ce jour-là, je suis très bien. Il me vaccine. Plus d'aller-retour chez les médecins, plus d'attente. Plus de vaccins dans les frigos. Et voilà, et plus de retour dans les salles d'attente. Et en plus, on simplifie et on dégage le médecin généraliste de beaucoup de choses. C'est pour ça que nous, on aimerait vraiment élargir aux pharmaciens. Parce qu'on s'est rendu compte, nous, les millions de patients, que chacun passait au moins une fois par an en pharmacie pour un mal de gorge, pour une pommade ou. Il demande un avis pour un bobo qui ne nécessite pas une consultation de médecin. Ça serait l'occasion pour le pharmacien de faire le point sur les vaccinations, surtout si la personne n'a pas de médecin généraliste. Les pharmaciens sont les personnes référentes et de confiance du patient dans la quête d'avenir. On l'a vu, on l'a démontré. Alors, pour nous, fini pour la fatigue, l'attente et de très grandes simplifications et surtout plus d'oubli. Vous vous rendez compte, le pharmacien, j'y vais, mon bon de vaccination, il me vaccine, il n'y a plus d'oubli, plus de frigo. Pensons aussi aux infirmiers ou aux infirmières libéraux qui sont très proches des malades. Ils prennent en charge, donnons-leur la liberté de nous vacciner. Plus aucun vaccin ne va périmer dans mon frigo. D'ailleurs, c'est une obsession, mais c'est une vraie réalité. Et plus besoin d'avoir une ordonnance du généraliste qui autorise l'infirmier à me vacciner. Parce que sachez que mon vaccin dans le frigo, mon infirmier vient pour mes soins, tu dis... Vous pouvez vacciner, s'il vous plaît? Ah non, je dois avoir une prescription bien spécifique du médecin. Alors aujourd'hui, moi, je lance, c'est plus un message. Les messages, on les passait depuis 2013. Maintenant, moi, je lance un vrai cri à nos instances médicales et politiques. C'est simplifiez-nous la vie. La maladie se charge déjà de nous la rendre bien compliquée. C'était mon message.
Gisèle, c'est un plaidoyer fabuleux. Hein. Je trouve que l'image du frigo, ça fait partie des choses qui... on devrait mettre une grande croix sur les frigos pour faire en sorte que les choses soient simples et que, c'est vrai, ces différentes réglementations s'harmonisent pour faire quelque chose qui soit quelque chose de plus efficace et, on va dire, de ce qu'on appelle convenient pour les patients, c'est-à-dire beaucoup plus pratique. et qui éviterait tous ces allers-retours, tous ces risques de rupture et ce qu'on voit dans la réalité. Alors, Eric Achula, merci de nous avoir rejoints, justement. Donc, avant de donner la parole aux pharmaciens, puisque Marie-Josée Ogé-Comeau est là, et je crois qu'elle a plus grand-chose à dire après ce qu'a dit Ghislaine, je voudrais avoir l'avis du médecin. Vous êtes médecin spécialiste de médecine interne et d'immunologie clinique au CHU de Lille, et vous êtes en même temps le coordinateur de la filière de santé maladies rares, FAIIR, donc sur les maladies respiratoires. Et ce serait intéressant déjà que vous nous expliquiez ce que c'est que la filière, parce qu'en tant que telle, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'organisation, qui est une organisation française et qui nous est enviée d'ailleurs à l'international, cette organisation des filières de maladies rares qui a permis de faire le lien entre la recherche fondamentale sur les maladies, la recherche clinique et les projets thérapeutiques. Et puis, savoir comment vous mettez en place la pratique vaccinale justement auprès de ces populations qui sont pour beaucoup très, très immunodéprimées, quelquefois greffées. Donc voilà, la parole est à vous.
Merci. Alors, je coordonne, c'est vrai, une filière, une des 23 filières. Le son est bon, vous m'entendez bien? Si je parle comme ça? Parfait. Donc, je coordonne une des 23 filières maladies rares, mais pas sur les maladies respiratoires. Parfois, les patients ont une atteinte respiratoire. En fait, FAI2R veut dire maladie auto-immune et auto-inflammatoire rare. Ce sont des maladies systémiques par dérèglement du système immunitaire ou dérèglement des systèmes d'auto-inflammation qui donnent souvent des atteintes d'organes, poumons, c'est vrai, le cœur, les articulations, la peau, les reins, qui justifient des traitements par corticoïdes et immunosuppresseurs. Cette filière que j'ai la chance de diriger depuis 2014 représente à peu près 60 000 patients en France, dont les trois quarts, voire 80% sont immunodéprimés, donc à risque de maladies opportunistes, de maladies infectieuses, virales, bactériennes. Donc, c'est une population extrêmement fragile. Et nous travaillons depuis des années et des années en faveur de la vaccination. Madame Dominique Godard, qui est connectée et qui est présidente de l'Association sclérodermique de France, est très active dans ce domaine. On a beaucoup travaillé ensemble. Alors, cette filière, elle rassemble aussi 18 centres de référence en France, 68 centres de compétences, plus de 2000 professionnels donc, qui sont sensibilisés, et donc je vous disais 60 000 patients. Qu'est-ce qu'on a pu faire pour eux depuis 2014? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, parce qu'on est très sensibilisés à ce risque. Et c'est vrai que l'infection Covid a mis un accélérateur, mais on n'a pas attendu le Covid pour sensibiliser notre population de patients et nos professionnels de santé à la vaccination. On a très rapidement, et si d'ailleurs vous allez sur le site FAI2R et que vous tapez vaccination, vous avez 27 pages de documents en faveur de la vaccination. Et une des premières que nous avons fait, c'est cette petite plaquette que vous voyez peut-être. On a fait ça en partenariat avec Dominique Godard. Donc, ils sont sensibilisés déjà il y a 7-8 ans à la vaccination. Et avec la vaccination, c'est-à-dire la mise à jour du cadre vaccinal, qui est extrêmement importante, aussi la vaccination à pneumocoxique, qui sort dans cette population à risque d'infection liée à l'immunosuppression et particulièrement sensible aux germes encapsulés, l'hémophilus et bien sûr la mise à jour du carnet vaccinal standard. Donc ça, c'est ce qu'on a fait dans le passé. On a aussi fait un beau travail de sensibilisation de la vaccination avec nos associations. Notre filière regroupe 16 associations de patients. Et on a fait une petite vidéo en les impliquant, en leur faisant dire un petit message à leurs patients, chacun association par association. On retrouve aussi ça sur le site de la filière. Et chacun encourage donc ses adhérents à se faire vacciner. Et nous avons la chance au sein de la filière d'avoir une professionnelle de la communication. Ça, je crois que c'est très, très important pour faire transmettre les messages auprès des patients, auprès des professionnels de santé. Et donc, on est très présent sur les réseaux. On a un site internet extrêmement actif et tout ça aide, je pense, à la diffusion d'informations. Enfin, avec l'épidémie Covid, tout ça s'est évidemment largement accéléré. Il fallait encourager notre population à se faire vacciner dès le mois de janvier 2021. Et la filière, depuis mars 2020, avait publié mensuellement des recommandations de protection vis-à-vis de l'infection, parce que se protéger de l'infection, ce n'est pas que les vaccins, et on en reparlera peut-être un peu, j'insiste beaucoup autour de ça. On a beaucoup appris avec les gestes barrières, mais depuis le mois de janvier de cette année, on fait des fiches de recommandations vaccinales et de conseils vaccinaux, qui doit avoir 3 injections pour une primo-vaccination, qui doit avoir un rappel, et c'est une 4e injection, et qui doit avoir... les fameux anticorps monoclonaux dont nous parlerons peut-être, mais de protection quand on n'a pas de séroconversion, quand on est immunodéprimé. Voilà quelques exemples, et j'en passe, on a interviewé aussi le professeur Fischer pour rassurer nos populations sur le vaccin, sur son efficacité, donc on est très présent en termes de communication et de sites internet et de réseaux sociaux. Voilà, on résumait un peu ce que la filière a pu faire ces derniers mois. On ne vous entend pas. Vous êtes mute.
Excusez-moi. Ce que vous avez fait sur cette filière, est-ce que c'est quelque chose qui est susceptible d'être étendu à d'autres filières maladies rares? Parce qu'il y a une coordination des différentes filières. Je pense que cette expérience très positive, vous pourriez la partager. Est-ce que vous recevez un intérêt de la part des autres filières?
Oui, absolument. Alors, toutes les filières ne sont pas concernées par le sur-risque infectieux, mais certaines le sont. Vous parliez de la filière des maladies respiratoires, elle s'appelle Respifil. Oui, Respifil s'est beaucoup inspiré de ce qu'on a pu faire au cours des mois. Et donc, on transmet notre savoir-faire aux autres filières. Et bien sûr, quelquefois, on s'inspire aussi de ce que font d'autres filières. Mais oui, bien sûr, il y a une communication entre les filières, c'est extrêmement important. 3 millions de personnes sont concernées en France par les maladies rares.
Alors, autour de ça, il y a la vaccination, bien sûr, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a le cocooning, on va dire, vaccinal, c'est-à-dire le fait de vacciner l'entourage. Il y a, bien entendu, les gestes barrières qu'on n'aurait jamais dû oublier. Moi, je me rappelle que c'était quelque chose qu'on apprenait à l'école à l'époque, quand on était en primaire, c'est-à-dire dans les années 60, il était hors de question de rentrer dans la classe si on ne s'était pas lavé les mains. On vendait encore à l'époque des timbres contre la tuberculose, c'est un vieux souvenir, mais donc il y avait ce risque permanent de pathologie infectieuse qui existait dans l'esprit de tout le monde. Comment on peut dépasser justement cette notion de simplement de vaccination pour retrouver, je ne veux pas dire une connaissance un peu de l'hygiène de base, mais quelquefois ça fait un peu choquant quand même de passer plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros dans des campagnes de communication pour dire aux gens de mettre leurs mains devant leur coude devant la bouche quand ils vont tousser ou d'aller se laver les mains. C'est quelque chose qu'on devrait même apprendre dans les familles, quoi. Enfin, comment vous voyez justement l'ensemble de ces mesures se mettre en place spécifiquement pour les patients qui sont des patients à risque ou immunodéprimés?
Alors, comme vous le précisez très bien, il n'y a pas que la vaccination du patient qui apporte une protection. La vaccination de l'entourage, vous l'avez bien exprimé, la vaccination en couronne protège le patient immunodéprimé. Incontestablement, on l'a vu avec l'épidémie Covid, les patients vaccinés sont beaucoup moins infectants et beaucoup moins longtemps infectants, donc diminue considérablement le risque de contaminer la personne immunodéprimée. Je pense que l'épidémie Covid nous a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce sont les points positifs de l'épidémie, parce que je dois vous dire que personnellement, les gestes barrières, je ne les ai jamais appris au cours de mes années médicales, où ça a été vraiment bâclé, carrément bâclé. Et je dois dire que on se sentait un petit peu ridicule et honteux à porter un masque quand on avait la grippe, parce que voilà, et maintenant ça devient un geste naturel et c'est vraiment les points positifs. Je crois qu'à l'avenir, même lorsqu'on sera après ces vagues Covid, et j'espère que c'est la dernière, on prendra l'habitude de mettre un masque quand on est dans le métro, de mettre un masque quand on est dans un entourage très dense en population, surtout l'hiver, ça c'est évident. On a appris aussi à se laver les mains, réappris à se laver les mains. Et dans les écoles, maintenant, tout ça deviendra une habitude, même si les bonnes habitudes, après, on les oublie peut-être rapidement. Mais je pense que ça va marquer des générations quand même, ce qu'on a vécu. Je parle déjà au passé, je suis optimiste. On a vécu avec l'épidémie Covid. J'espère vraiment que ce sera la dernière vague. On a quelques chances. Donc, les gestes barrières. Mais il n'y a pas que ça, vous le disiez. Et j'insiste beaucoup sur la protection des maladies infectieuses. Il y a, ben, le Covid nous l'a appris aussi, la possibilité de transmettre des anticorps passivement, c'est ce qu'on appelle l'immunité passive, quand on n'a pas la chance de faire des anticorps parce qu'on est immunodéprimé. Et ce sont les biothérapies dont on parle beaucoup ces derniers temps, qu'avait reçu Trump quand il avait fait le Covid. Maintenant, ces médicaments, on les a à disposition. Et on a une version de combinaison de monoclonaux qui a une certaine efficacité sur Omicron. Et donc, nos patients immunodéprimés, on les met sous ces biothérapies. Et puis, il y a aussi des mesures qui sont anciennes, mais très efficaces. Par exemple, quand on a un déficit immunitaire lié aux médicaments immunodépresseurs et qu'on a les globules blancs, lymphocytes T qui sont très bas, on peut mettre un antibiotique, le Bactrim. On est protégé de certaines infections opportunistes qu'on appelle la pneumocystose, mais aussi des infections bactériennes classiques. On peut aussi mettre des médicaments protecteurs du zona, protecteurs de l'herpès. Donc, il n'y a pas que la vaccination pour protéger tous nos patients fragiles.
Alors, justement, vous parlez des anticorps monoclonaux. Ce n'est pas tout à fait le sujet du jour, mais c'est intéressant parce qu'on va encore avoir un problème d'accès vis-à-vis de ces anticorps. C'est-à-dire que si vous, vous les prescrivez, où est-ce que le malade pourra s'y procurer pour pouvoir en bénéficier? Est-ce que ça doit être dans les vaccinodromes? Est-ce que ça doit être dans les maisons de santé pluriprofessionnelles? Est-ce que c'est à l'hôpital? Est-ce que...
Alors aujourd'hui, on est moins en tension sur l'accessibilité de ces médicaments. On l'était plus au mois de septembre dernier avec la première molécule arrivée sur le marché. Aujourd'hui, les ARS nous ont bien fourni. Je pense que l'accès à ce médicament doit être décidé par le professionnel de santé, là où il suit le patient. C'est lui qui décide si le patient doit avoir 3 doses de vaccin, un rappel. Et si après, il n'y a pas d'anticorps, c'est lui qui fait la demande sur la plateforme spécifique du laboratoire pour avoir accès au médicament. On a la réponse en 24 heures et la mise à disposition du médicament. C'est 72 heures, donc on a accès vraiment facilement et très rapidement à ce type de produit. Aujourd'hui, on n'est pas en tension. On peut vraiment proposer ce médicament aux patients qui en ont besoin.
Très bien, ben, merci beaucoup pour toutes ces explications. Très clair en plus, donc ça c'est tout à fait appréciable. Marie, ta position, toi en tant que pharmacien, par rapport à tout ce qui a été dit, n'en sort que conforté. On voit les efforts de la profession, d'ailleurs, sur le plan de la politique de test. 1 700 000 tests par jour, je crois, à l'heure actuelle. On est sur des consommations de tests qui sont absolument dingues. Et s'il n'y a pas le réseau des pharmaciens, c'est sûr qu'on pourrait peut-être pas, enfin, on pourrait certainement pas arriver à tester aussi facilement la population. Alors, quel rôle peut encore jouer la pharmacie dans cet objectif de simplification du parcours de soins, dans cet objectif de pédagogie dont parlait Eric tout à l'heure, dont parlait Ghislaine également, comment on peut renforcer aussi la synergie, parce que les combats corporatistes entre les médecins, les pharmaciens, les infirmiers et tout ça, par l'intermédiaire de communiqués de presse, au bout d'un moment c'est bien, mais enfin bon, c'est pas ce qu'il y a de plus constructif. Comment on peut travailler ensemble sur le terrain? Parce que c'est aussi au sein des territoires, comme le rappelait Ghislaine, que c'est intéressant de travailler, pour faire en sorte d'avoir une animation des professionnels de santé sur cette mobilisation générale dont parlait Mélanie tout à l'heure.
Bien, bonjour à tous et merci pour l'invitation, mais aussi merci pour ce colloque. Je pense qu'il était important de nous réunir tous autour de ce sujet, qui pour moi est primordial dans la promotion de la santé. Je vais répondre tout de suite à ce que vous venez de dire. Territoire, Ma Santé 2022 a préconisé la création de communautés professionnelles territoriales de santé. Aujourd'hui, 850 sont en formation, préparation et peut-être aboutissement, alors qu'on en avait prévu 1000. Tout cela pendant les 2 ans de la pandémie. Ce qui veut dire quand même que sur le territoire, il y a une coordination qui se met en place. L'exercice coordonné va devenir, je dirais, l'exercice de demain et on voit bien que ça marche. Donc, pour le parcours de soins du patient, moi je dirais que je suis très optimiste. Après, sur la vaccination et les débats corporatistes dont tu parles, pour moi, la vaccination, c'est une compétence partagée, comme la prévention, comme le dépistage, comme la promotion de la santé. C'est une mission de premier recours qui devrait être partagée entre plusieurs professionnels. Et je vais plus loin, la prévention même, c'est l'affaire de tous. Ce n'est même pas l'affaire que des professionnels de santé, et ça, je milite pour ça. La pharmacie, vous le savez, c'est un espace de santé qui est de proximité. Pour mes confrères médecins, je rappelle que la loi de répartition des officines, elle date de 1949. C'est-à-dire que ce n'est pas un texte qui a été pondu pour les déserts. Elle a été pondue à l'époque en disant qu'il faut des pharmacies partout pour que la population soit bien desservie, et donc on avait quand même un peu d'antériorité. Un tel texte ne passerait pas aujourd'hui, je vous rassure, pas plus chez les autres professionnels que chez nous. Donc 21 300 pharmacies en France, et la particularité de la pharmacie, et c'est pour ça je pense qu'il faut y réfléchir, c'est que c'est une entreprise, c'est-à-dire une entreprise de 120 000 personnes. 55 000 pharmaciens exercent en pharmacie, donc ça veut dire qu'il y a la possibilité, effectivement, comme on l'a fait aujourd'hui. Je vous rappelle que au 7 janvier 2022, nous avons pratiqué 130 millions de vaccinations Covid, dont 35 millions à l'officine. Ça veut dire, si vous voulez, qu'on a la capacité de bouger un peu avec du personnel et de pouvoir faire à la fois de la santé et de l'administratif comme cela nous est demandé. Alors, les missions de la pharmacie, elles ont été élargies par une de nos consoeurs qui était ministre à l'époque, qui était Roselyne Bachelot. Et depuis, je dirais qu'on a vraiment poussé à cet élargissement. Et la capacité à vacciner, ce n'est pas ancien, hein, c'est 2017, hein, ce n'est pas très vieux. Une expérimentation qui devait être sur 4 ans, qui finalement a été écourtée pour généraliser. Et si on regarde la capacité de vacciner aujourd'hui des pharmaciens, on était 27%. On faisait 27% des injections en 2019, 34% en 2020 et 40% en 2021. C'est-à-dire que ça a progressé, comme le disait Ghislaine, et merci Ghislaine, par la capacité justement à trouver un professionnel sans rendez-vous. Je pense qu'on est à peu près les derniers à ne pas avoir de rendez-vous là-dessus. Alors, les propos corporatistes, moi, je ne m'y penche pas dessus. Je pense que on a tous à se coordonner. Il y a des endroits où c'est l'infirmière qui fait toutes les vaccinations parce qu'ils se sont entendus avec le pharmacien, le médecin du coin. Moi, j'ai mon médecin traitant, il a mis en gros là-dessus, je fais ni test ni vaccination, vous allez chez l'infirmier, le pharmacien, etc., etc. Donc, je crois que c'est sur le terrain, sur le territoire qu'on arrive à mieux fonctionner, et c'est comme ça qu'on y arrivera. Vous avez parlé tout à l'heure de cette vaccination grippe. Nous ne sommes autorisés maintenant, nous n'étions autorisés à vacciner que les personnes avec le bon, Ghislaine. Et j'aimerais bien que l'on fasse une enquête là-dessus auprès de la CNAM. On a délivré on a réimprimé un nombre de bons considérables, effectivement, pour des patients qui n'avaient pas ou qui avaient perdu leur bon. Donc ça, je crois que c'est important à signaler. Néanmoins, c'est seulement depuis le 22 novembre que nous pouvons vacciner l'entourage, les adultes, justement les aidants des personnes qui peuvent être immunodéprimées ou des personnes âgées. C'est que le 22 novembre qu'on nous a autorisé, et ça n'est pas pris en charge par l'assurance maladie, cette vaccination. Donc c'est dire qu'on progresse, on progresse, on grignote, comme je dis, vis-à-vis de cette vaccination, mais je pense qu'on va y arriver. Alors, vous en avez parlé du carnet vaccinal, et je pense beaucoup que tout à l'heure, Laura vous parlera du numérique en santé. Moi, je crois beaucoup. Je pense que la pharmacie est un lieu où on pourrait effectivement vérifier, comme on peut avoir une consultation, un entretien de prévention, on pourrait regarder ce carnet. Et nous attendons l'avis de l'HAS maintenant pour cette extension des vaccinations. Nous travaillons aujourd'hui sur le HPV. C'est une honte le HPV. Quand on voit vraiment le peu de vaccinations, c'est incroyable de penser qu'on ne peut pas, si vous voulez, obtenir ça. Donc, on milite pour avoir effectivement l'extension des vaccinations pour les plus de 12 ans, hein, puisqu'on réserve effectivement pour les enfants. Et je pense que la HAS va aller vers cette décision qui permettrait effectivement de désengager un petit peu. Et on voit aujourd'hui qu'on a un déficit, je l'ai dit, en HPV, mais on a un déficit en rougeole, un déficit, le tétanos, n'en parlons pas. Comme disait Ghislaine, le vaccin, il va souvent, alors que la vaccination de tétanos, elle n'est pas compliquée à faire, même le patient pourrait la faire. Eh bien, on va vers, si vous voulez, un déficit en vaccination qui est bien dommage dans notre situation actuelle. La convention pharmaceutique que nous sommes en train de négocier actuellement a fait peu de place à l'économie sur l'officine, parce qu'on voit bien que le quoi qu'il en coûte, coûte cher, et qu'on n'aura pas beaucoup d'argent pour les professionnels. Par contre, elle met vraiment le paquet sur tout ce qui est métier, c'est-à-dire la prévention, le dépistage, la vaccination. Et moi, je suis très optimiste pour que l'on puisse, avec les patients, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire, dans nos CPTS, nous avons besoin des patients. On ne peut pas constituer, si vous voulez, un projet de santé sans les patients. Et ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est primordial pour nous et qui doit permettre sur les territoires à mieux organiser. J'ai déjà expliqué. On a vu vraiment que quand on se met tous ensemble, on réussit. Il n'y a pas que des affiches. Hein. On se met tous ensemble et on discute là-dessus. Donc, j'ai commencé par la coordination et je termine par la coordination parce que j'y crois beaucoup.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie, pour ce plaidoyer. Non, je crois que tu as tout à fait raison sur le fait qu'il faut, il faut travailler ensemble sur le terrain. Je faisais cette remarque sur les corporatismes parce que c'est vrai que c'est quelquefois un peu frustrant de voir des batailles sur des sujets aussi importants, des batailles un peu, on va dire, d'institutionnels sur des sujets comme ça. Je trouve que ça ne le mérite pas, quoi. Alors, je crois qu'on a une question. Non. C'est Dominique qui posait une question sur les patients sont prévenus pour certains.
Non, je ne posais pas de questions, je répondais juste au chat. Bon, là, j'avais vu une main levée, mais je ne sais pas chez qui.
Eh bien, c'est toi qui l'as levée.
Non, je voulais répondre tout simplement. Pardon.
Bon, mais c'est très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Dominique, pour cette précision sur la mise à disposition des anticorps monoclonaux. Alors, je passerai la parole justement à France Asso Santé qui la demande tout à l'heure. On va terminer la table ronde déjà et ensuite, il y aura un espace, bien entendu, pour les questions. Clotilde, Rénalou, qui est une association qui est marquée par une activité et un activisme de bonne aloi et sur lequel beaucoup de choses sont faites justement pour promouvoir les intérêts des patients. Vous pouvez nous en parler de Rénalou et puis nous parler également de ce que vous avez mis en place, vous, dans le cadre de la crise sanitaire et de ce que vous souhaitez voir se développer à l'avenir en ce qui concerne la vaccination des personnes fragiles.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Olivier et merci aussi à Madame Comeau pour cette belle transition au sujet de l'importance des associations de patients. Donc peut-être simplement rappeler que Rénalou est une association qui représente des patients et des proches qui sont concernés par la maladie rénale, la dialyse et la greffe et qui du coup à ce titre-là sont donc des populations qui sont très concernées par un risque de forme grave de Covid-19 mais aussi pour d'autres infections. Alors, les deux années qui viennent de s'écouler ont sans aucun doute été riches d'enseignements et de pistes d'amélioration pour les parcours vaccinaux des patients immunodéprimés ou à risque d'infection. Et je vais peut-être commencer par rappeler justement la place des associations de patients sur ces sujets. Peut-être aussi revenir sur le fait qu'elles ont peut-être été peu écoutées ou impliquées en début de crise sanitaire, mais que finalement, elles ont et elles continuent de jouer un rôle majeur d'information et de soutien auprès des patients et des proches, et notamment sur le sujet de la vaccination. C'est clair que les questions et les sollicitations qui sont parvenues à l'ensemble des associations pendant cette crise et qui continuent d'ailleurs d'affluer via nos communautés ont été massives. Alors certes, cette période a été exceptionnelle dans le volume de sollicitations qu'elle a généré, mais elle illustre vraiment le rôle des associations comme des interlocuteurs en qui les patients et les proches ont confiance et vers lesquels ils se tournent pour obtenir des informations et du soutien aussi. Alors les associations, dont Rénalou bien sûr, ont eu à cœur de fournir une information qui soit exhaustive et fiable sur la vaccination, contre le Covid-19 en l'occurrence, et qui puisse aussi contribuer à ce que chacun puisse prendre des décisions qui le concernent, en concertation avec les professionnels de santé qui les accompagnent. Donc c'est aussi ce qui a été évoqué par Madame Comeau, c'est que finalement, il y a un ensemble d'acteurs qui peuvent intervenir dans ces processus de décision autour de la vaccination. Et peut-être aussi rappeler que le besoin d'information des patients a été d'autant plus nécessaire que à la fois la capacité des soignants à contacter les patients, mais aussi l'information qui a été délivrée de leur part, sa régularité, a varié très nettement d'une équipe soignante à l'autre et donc d'une région à l'autre aussi. Pour certains, avec une information très régulière et pour d'autres, avec absolument aucune information à destination des patients. Alors on le sait, en tous les cas, c'est quelque chose qui se met en place progressivement. Les associations, des communautés aujourd'hui de patients, d'adhérents, sympathisants qui sont constituées et elles s'outillent progressivement pour parvenir à recueillir de façon structurée et rigoureuse l'expérience des patients sur les parcours de santé, de soins, leur qualité de vie et dans le cadre de cette crise sanitaire, de son impact sur leur existence, la qualité, la continuité des soins, l'accès équitable et simplifié à la vaccination ou aux thérapeutiques alternatives. Donc cette expérience, elle est précieuse, elle doit être valorisée et entendue et elle a pu contribuer pendant la crise et devra d'ailleurs pouvoir l'être au-delà, bien au-delà, à mobiliser les pouvoirs publics, à une prise en compte de la situation spécifique des personnes concernées, notamment les plus fragiles, que nous représentons aujourd'hui avec le collectif Avenir. Donc les associations ont vraiment contribué à des avancées notables pendant la crise sanitaire et peuvent et doivent le faire dans d'autres contextes. Donc une collaboration étroite entre les différents acteurs, incluant les associations de patients au niveau national et local, doit pouvoir être mise en œuvre ou renforcée pour le développement de la vaccination et pour la facilitation des parcours. Alors il y a peut-être un point peut-être un peu plus opérationnel sur lequel je pourrais revenir, ce serait celui de la pérennisation de dispositifs innovants qui ont pu être mis en place pendant la crise sanitaire et qui pourraient aussi être transposables, en tout cas on peut l'imaginer, à d'autres infections. Je pense par exemple au fait que l'assurance maladie ait transmis des courriers aux patients immunodéprimés sévères pour les informer, leur proposer la vaccination contre le Covid-19. Donc on sait que les bons de vaccination existent déjà pour la grippe, notamment pour une partie de la population de patients fragiles, puisque tous ne les reçoivent pas non plus. Mais c'est vrai que l'utilisation de ces courriers ou dispositifs qui sont vraiment des leviers majeurs de mise en œuvre de la vaccination devrait être développée, étendue à d'autres infections, et je pense par exemple aux pneumocoques. D'autres avancées aussi pourraient être poursuivies, et ça a été évoqué précédemment, donc je n'y reviendrai pas. Je n'y reviendrai pas en détail, mais l'extension de la compétence vaccinale à certains professionnels de santé est sans doute quelque chose qui serait très bénéfique pour la facilitation des parcours. Enfin, et ça a aussi déjà été évoqué, la pandémie a permis de rappeler que certaines populations, du fait de leur pathologie ou des traitements qu'elles prennent, ont une moins bonne réponse à la vaccination. Et donc des efforts doivent vraiment être faits pour proposer des stratégies alternatives les développer, les mettre à disposition avec par exemple la création de bulles de protection autour des patients vulnérables et donc une forte incitation et facilitation de la vaccination par exemple des proches, mais aussi des professionnels qui prennent en charge les patients les plus fragiles. Et peut-être pour terminer, la crise sanitaire a été l'occasion aussi de développer et d'innover sans doute dans des stratégies d'aller vers qui ont été multiples et très variables aussi en fonction des régions et des populations ciblées, mais il y a sans doute des enseignements à tirer pour adapter ces stratégies complémentaires et gagner en efficacité sur la mise en œuvre de la vaccination, la simplification des parcours. Donc je terminerai peut-être juste en disant que c'est un sujet que Paul Loubet a évoqué, hein, la répétition de l'information, la multiplication des incitations à la vaccination, et les différents leviers d'action qui seront mis à disposition, leur multiplication et leur diversification sont sans doute des leviers importants pour augmenter les taux de couverture vaccinale dans les populations à risque.
Merci Clotilde. Moi j'ai une question pour vous, c'est on voit monter la grippe là, si bien entendu on voit la contamination par Omicron se généraliser. 375 000 nouvelles contaminations hier. Il y a quand même, quelque chose. J'en discutais, j'ai des parents qui sont maintenant très âgés, puisqu'ils ont près de 90 ans. Se vacciner, déjà, c'est un problème. Mais alors, avoir deux vaccins en même temps, est-ce que comment pourrait être accueilli le... Pardon, excusez-moi. Comment pourrait être accueilli le phénomène d'une co-vaccination qui pourrait être faite avec la grippe et le Covid par les associations de malades dans le cadre justement de cette simplification et de cette politique d'améliorer le parcours de soins?
En tout cas, ce qui est certain, c'est que les associations et notamment celles qui sont membres du groupe Avenir, elles relaient depuis de nombreuses années hein, le sujet de l'importance et de l'intérêt de la vaccination contre la grippe pour les personnes qu'elle représente. Elle a donc été réitérée par les associations cette année, avec effectivement un contexte de co-administration du vaccin Covid et grippe. Ce qui a l'air d'en ressortir, en tout cas, au vu des premières estimations, je crois, de Santé publique France, c'est que finalement, cette co-administration n'a pas forcément eu l'effet escompté en tous les cas d'augmentation des couvertures vaccinales. Je regardais peut-être hier les premières données, estimations qui ont été fournies par Santé publique France avec du coup chez les personnes à risque de forme sévère une couverture vaccinale de la grippe qui serait évaluée à 45%, donc qui serait supérieure à 2019 mais très inférieure à celle de 2020, où on peut peut-être se dire que c'était une année assez exceptionnelle. Et puis, de la même façon, la couverture vaccinale chez les professionnels de santé dans les établissements sociaux, médicaux, sociaux, elle reste aussi extrêmement basse. Donc, sans doute qu'il y a encore des efforts à faire sur cette incitation à la vaccination contre la grippe, hein, et que peut-être il faudra analyser les difficultés qui ont pu être mises en place dans le cadre de cette co-vaccination. Est-ce que c'était la disponibilité des stocks de façon conjointe? Est-ce que c'est parce que les gens ont préféré, parce qu'il y avait peut-être un manque d'informations sur les risques ou les non-risques plutôt associés à cette double administration dans le cadre de cette campagne vaccinale?
D'accord. Vous avez parlé de l'allée verte et en particulier des actions locales. C'est une question pour Ghislaine. Chez Nil, on croit beaucoup à l'action locale. Je crois que c'est vraiment un des axes forts de notre activité en tant qu'agence. Et on s'aperçoit que ça marche sur le terrain. C'est-à-dire que quand on demande en particulier des success stories dans les territoires, on s'aperçoit qu'il y a des initiatives merveilleuses qui sont prises par des acteurs sans clivage, sans... Voilà, en Grand Est, par exemple, sur le HPV, je sais que toutes les URPS se sont toutes regroupées pour avoir des actions communes avec les associations de malades, avec la CEPAM, avec également le Conseil régional. Comment vous voyez ces compétences au niveau des élus locaux? Parce que les élus locaux, ce sont des gens qui sont importants, qui peuvent organiser, on l'a vu, c'est eux qui ont organisé le plus souvent les vaccinodromes, qui ont pu mobiliser des forces qui ne sont pas forcément des forces, comme le disait Marie, du monde sanitaire, mais également d'autres forces. Ça peut être des associations, ça peut être un centre de pompiers. Les pompiers ont beaucoup aidé sur la vaccination. Il y a vraiment des choses qui sont des choses tout à fait intéressantes qui sont créées. Comment vous verriez-vous cette mobilisation des élus locaux autour de la prise en charge des personnes et de la vaccination des personnes immunodéprimées?
Alors, on peut déjà saluer l'ARS Grand Est qui a l'intelligence de toujours prendre contact avec les élus locaux. Et les élus locaux ont pris l'habitude maintenant de travailler avec les ARS et les associations de patients, ce qui est une grande première, puisqu'on nous oubliait un petit peu. On parlait beaucoup d'eux, mais on ne les voyait jamais. Donc ça, c'est déjà un grand progrès. Et maintenant, quand les élus arrivent, nous avons pris l'habitude, avec France Asso Santé ou autre, d'aller se présenter aux élus. Je crois que c'est une très bonne chose. Et ce n'est pas une perte de temps. Non, les élus ne se fichent pas de leurs citoyens malades et des problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Voilà, c'est ça. Ça fait partie aussi des choses à gérer quand on est élu, et surtout à promouvoir. C'est à nous de faire les démarches aussi. Il ne faut pas avoir peur.
Je crois qu'il y a quelque chose qui est important, c'est que quand on est élu local, les informations, on ne les a pas toujours. C'est-à-dire que s'occuper de santé, d'abord, ce n'est pas forcément dans les compétences. Et puis, deuxièmement, moi, je vois dans mon village en Bourgogne, par exemple, le maire, il était agriculteur. Donc, tout ce qui concerne la santé, ce n'est pas véritablement son sujet. Donc, c'est là où vous avez aussi une force de pédagogie qui est importante pour sensibiliser les élus locaux à toutes ces problématiques. Parce que ce n'est pas parce qu'on est élu maire que d'un seul coup, on va avoir toutes les compétences qui vont être mises à disposition. Le maire, c'est quelqu'un, par exemple, qui a ce pouvoir, quand il fait bien sa mission, de faire de la porosité dans les murs et de créer entre un secteur associatif, un secteur médico-social, un secteur sanitaire, des gens de bonne volonté, des gens qui veulent créer des projets, de créer justement ces liens et de faire en sorte que ces projets arrivent. Mais il faut leur apporter des projets, il faut leur apporter aussi de la pédagogie parce qu'ils ne sont pas tous complètement compétents dans le domaine de la santé, qui est quand même un domaine extrêmement complexe. Comment vous mettez à disposition cette information ?
Alors, un exemple simple, nous faisons des ETP de proximité au plus proche des malades et nous avons besoin de salles. Donc, nous allons toujours dans les mairies, à Forbach, Sarreguemines, Créanges, et les mairies nous accueillent en disant « Mais bien sûr qu'on va vous mettre des salles à disposition pour votre éducation thérapeutique patient, vos horaires, on va s'arranger pour faire ouvrir les salles, pour les chauffer, peu importe si c'est 18h, 20h. C'est ça qui est extraordinaire quand on amène des projets et qu'on se présente en disant « Voilà, si on a besoin de salles, si on a besoin de journalistes, si on a besoin de faire un petit peu de la promotion, est-ce que vous nous suivez ?» Et je n'ai jamais eu de réponse négative. Mais il faut que nous, associations, on ose pousser les portes des mairies, ce que l'on ne fait pas forcément aussi.
Erika Chula, vous avez la même vision des choses. C'est facile de discuter avec un élu local pour monter un projet autour d'une prise en charge ou quelque chose. Je ne sais pas si Eric nous entend. En tout cas, vous êtes en mute si jamais. Alors, je pose la même question de toute façon à Marie. Comment on est reçu ?
Nous, on est toujours bien reçus. Et comme le disait Ghislaine, toutes les réunions de nos CPTS dans les communes, puisqu'en général, ce ne sont pas des immenses communes, mais nous les faisons dans les mairies. Et on a régulièrement soit l'intervention du maire, soit l'intervention de quelqu'un du CCAS ou d'un adjoint qui parle de ça. Donc, ça marche super bien. Et il faut vraiment aller leur présenter. Quand on dit CPTS, ils ouvrent des yeux comme des soucoupes. Et puis, quand ils comprennent qu'on va s'occuper de la population, ils sont très, très heureux d'avoir, si vous voulez, ces contacts. Puisque les CPTS s'occupent de la population et pas d'une patientèle. Donc, ça ouvre les yeux tout de suite. Et quand elle est patiente, c'est encore mieux. Voilà.
Et je pense que pour cette mobilisation générale qu'on a décrétée le 13 janvier 2022, avertir les élus locaux, ça fait partie des choses qui sont tout à fait capitales. J'ai une question également pour Clotilde. Quand on regarde les actions des associations, et c'est ce que j'apprécie dans l'avenir d'ailleurs, c'est le fait qu'il y ait un combat qui soit un combat trans-association, on va dire, inter-associatif. Souvent, les associations vont vers plutôt leur pathologie ou les pathologies qui les interpellent, et on peut le comprendre tout à fait. Comment on peut dépasser ce stade quand on est Rénalou, quand on est l'AFS, quand on est l'association des sclérodermiques, pour aller plus loin et pour porter un message qui soit un message plus consensuel sur tous les malades et pas simplement sur sa pathologie en particulier. Ah, le micro n'est pas... C'est en mute. Ah, ben on a perdu Clotilde. Alors, question pour Ghislaine.
Ah, c'est dommage, Clotilde, elle sait bien mieux en parler que moi. Donc, comment on fait pour dépasser nos pathologies ? Ben, écoutez, c'est très simple. On a des pathologies extrêmement différentes et ce qui nous concerne tous, c'est la vaccination. Et ça a été un grand constat qu'on a fait grâce à Pfizer. un jour, ils nous ont réunis, ils ont dit, qu'est-ce que vous avez en commun? Et on a réfléchi, on a dit, c'est la vaccination. Vous voyez comme quoi il faut toujours rapprocher les uns des autres, les institutions, des patients. Et ce que je voulais dire, c'est que même nous, on va voir les sénateurs et les sénatrices de notre département pour dire, écoutez, il nous faudrait un petit coup de pouce, vous avez la parole, vous connaissez, vous avez un grand panel, vous pouvez toucher beaucoup plus de politique que nous. Et on voit que tout le monde est ouvert. Et dans notre groupe à venir, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, la vaccination, parce qu'on est tellement de pathologies différentes et on a tous rencontré la même problématique. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Aussi bien dans les maladies que dans la mienne, où il y a des millions de personnes, des millions de malades.
Alors, ce qui est aussi particulier, c'est que vous avez la chance d'avoir Véronique Guillotin qui s'intéresse aux questions de santé, en particulier au Conseil régional de Grand Est. Donc, vous êtes dans une région favorisée. Là, vous avez, et Véronique interviendra tout à l'heure dans la table ronde numéro 3. Donc, on est vraiment sur une conjonction d'acteurs. Mais ça, cette conjonction d'acteurs, en fin de compte, elle vient... c'est pas parce que c'est Grand Est, il n'y a pas un génie particulier en Grand Est qui fait que tous les acteurs se retrouvent pour pouvoir discuter des sujets qui sont des sujets importants pour les populations. Je pense qu'elle vient aussi... Comment ça se crée? Est-ce que c'est les associations de malades qui peuvent commencer à porter ça? Est-ce que c'est les professionnels de santé? Est-ce que c'est des coalitions entre tous qui peuvent déclencher ce genre de mouvement? Parce que vraiment, les résultats de Grand Est sont... quand on vous écoute, sont tout à fait particuliers et tout à fait intéressants.
Alors, nous avons des infectiologues remarquables. Je pense au professeur Thierry May. Je pense que ces gens sont très, très impliqués. Tous nos infectiologues, on oublie aussi souvent les centres de vaccination que l'on ne contacte pas suffisamment souvent, nous les patients, parce que centre de vaccination… Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une usine à gaz? Vous voyez tout ça. Et dans le Grand Est, on a la chance que aussi bien les professionnels de santé et les politiques portent ces impulsions. Clotilde, bravo, tu es revenue.
On vous avait perdu, Clotilde.
Oui, toutes mes excuses, j'ai été déconnectée, je suis désolée. La question était par ailleurs fort intéressante. Alors, donc, je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes pour pouvoir y répondre, mais... je pense que donc la question sur l'idée qu'il puisse y avoir une forme de mobilisation collective, alors je pense que le collectif Avenir, le collectif interassociatif est justement une belle illustration, hein, comme vous le disiez, c'est que finalement les associations aussi se rendent compte qu'ensemble on peut être aussi plus fort et qu'on a aussi des thématiques transverses qui concernent des populations qui peuvent être concernées par des pathologies très diverses et variées. Et on a quand même beaucoup, beaucoup d'illustrations de la capacité des associations à avancer en interassociatif. Et d'ailleurs, très récemment, dans les jours précédents, la mobilisation interassociative, par exemple, qui est en cours autour de la mise à disposition, par exemple, de masques FFP2 pour les personnes à risque de forme grave, se fait aussi de façon très concertée. Il y a eu de nombreuses tribunes qui ont été publiées par les associations dans le cadre de la crise sanitaire et aussi des travaux qui se font avec d'autres acteurs, c'est-à-dire des associations de patients concernées par éventuellement des problématiques identiques, mais aussi d'autres acteurs, y compris des soignants, avec qui il peut y avoir des alliances très fortes qui sont mises en place.
Super. Éric Cachula, vous êtes là? Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous ai vu apparaître. Oui. Vous êtes là. Super.
Je suis revenu. Dominique m'a envoyé un texto. Je suis
revenu. Non, mais j'imagine et je comprends parfaitement. Et merci à tous d'être là. Et je m'aperçois que le sujet est tellement passionnant que pour le moment, on n'a perdu personne depuis le début de la matinée. On est toujours avec le même niveau d'audience et ça me fait vraiment très plaisir. Ça prouve qu'on a des intervenants de très haute qualité. On parlait justement des liens qui pouvaient exister entre les structures, les collectivités locales, les élus locaux et tout ça. Les associations de malades disaient que c'était facile, que c'était possible et que c'était souhaité. Marie disait que c'est la même chose par l'intermédiaire des CPTS. Quand on est à l'hôpital, c'est facile de dialoguer avec les élus locaux pour monter des projets, voir comment on peut faire des choses au niveau du terrain, faire mieux de l'aller vers, faire des choses comme ça.
Alors, contacter les élus, oui, si on a quelques portes d'entrée. Bon, quand on a un petit peu d'expérience, d'expertise et certaines responsabilités, c'est un peu plus facile. Bon, pour la région Hauts-de-France, c'est pas trop compliqué, quoi. Bon, nous avons M. Xavier Bertrand, on a lancé une grande opération pour la Journée mondiale maladies rares, par exemple. Donc, oui, les élus locaux, on arrive à les contacter. Mais j'imagine que ce n'est pas forcément facile partout.
Et est-ce qu'ils sont aidants, en règle générale?
Oui, absolument. Ouais. Ils sont aidants. Quand on parle de maladies rares, ils sont à l'écoute. Ils ouvrent les portes, que ce soit Mme Martine Aubry, que ce soit M. Xavier Bertrand. Quand on a besoin de quelque chose dans la région, ils donnent accès gratuitement. Ils apportent leur aide technique, personnelle. Oui, c'est-à-dire que dans la région Hauts-de-France, mais je répète, c'est peut-être ça n'est pas partout pareil et peut-être tout dépend de qui contacte qui aussi. Ça c'est.
D'accord. Alors, je voudrais revenir à notre grand témoin, Yves. Vous êtes toujours là?
Oui, oui.
Je vois Yves. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette table ronde? On attend Alain Fischer d'une minute à l'autre. Mais avant qu'il arrive, j'aimerais bien savoir quelle est votre opinion par rapport à cette table ronde et justement cette amélioration des parcours de santé, des parcours de soins, des parcours vaccinaux.
Écoutez, je découvre beaucoup de choses. Hein. J'apprends en même temps que tous nos correspondants, tous les invités se sont exprimés et j'ai appris énormément de choses. Ça me semble très très intéressant, surtout de voir que le point commun entre les différentes associations de malades, c'est finalement la vaccination. C'est bien, je trouve extrêmement positif de mettre le projet de vaccination au cœur du projet, au cœur de leur communauté de travail. Ça montre aussi quand même que en France, on a quand même une culture sur la vaccination qui devrait être très très en avance par rapport à de nombreux pays. Et en fait, on s'aperçoit que longtemps, la médecine a privilégié le soin par rapport à la prévention et a laissé la vaccination un peu de côté. On a un énorme retard à rattraper. La Covid va peut-être nous y aider, ça serait peut-être aussi un des bons aspects de cette pandémie, mais on a beaucoup de retard. Parce que finalement, bien sûr, le vaccin, c'est quelque chose qu'on donne à quelqu'un qui va bien, ou du moins qui ne va pas trop mal, pour l'empêcher d'attraper une maladie ou éventuellement de mourir d'une maladie infectieuse. Mais quand on va bien, il y a un sentiment de confiance. Effectivement, le mot confiance a été beaucoup employé depuis le début. Je crois que c'est un mot essentiel parce que recevoir un vaccin, c'est faire confiance au médecin ou enfin au personnel de santé qui va vous le prescrire, et c'est penser que on participe effectivement à la prévention par son propre engagement corporel. On donne son bras au vaccinateur. C'est encore très très difficile à remonter, et on s'aperçoit que actuellement, par exemple, beaucoup de réticences, c'est pas des gens qui sont des anti-vax, mais beaucoup de notamment des parents pour la vaccination de leurs enfants, sont liés à ce fait qu'il y a une confiance qui est quand même très limitée, parce que l'enfant galope, il va bien, il est en parfaite santé, et qu'est-ce qu'on va lui injecter? Est-ce que, voilà, on se méfie encore beaucoup trop des vaccins, alors que quand même la plupart des vaccins, quasiment tous les vaccins qui sont mis sur le marché, ont fait preuve de leur grande sécurité et de leur grande efficacité. Donc là, il y a un immense travail à faire. Et donc, pour revenir à votre question, je crois que effectivement mettre le vaccin au cœur des préoccupations des différentes associations de patients à risque pour différentes maladies infectieuses, c'est essentiel et c'est très très positif.
Merci beaucoup, Yves, pour cette appréciation du travail de chacun autour de cette table ronde. On parle de patients et on a France Asso Santé qui voulait poser une question tout à l'heure. France Asso Santé, vous êtes toujours là? Comme vous êtes juste identifié comme France Asso Santé, je ne sais pas si c'est le président ou quelqu'un de région, mais en tout cas, si votre question est bienvenue. Non, je crois qu'on n'a plus France Inso Santé. Bon, ce n'est pas très grave, parce que des questions, il y en a toujours. Moi, j'en ai une autre, Marie, qui me semble importante. Tu parlais des CPTS. À l'intérieur des CPTS, comment on peut initier un projet de travail avec cette CPTS particulièrement pour faire en sorte de pouvoir obtenir des résultats qui soient des résultats concrets? Parce qu'on a des ensembles de professionnels de santé, on a des ensembles d'associations. Qu'est-ce qui va faire en sorte que ça puisse se déclencher et je salue au passage Alain Fischer qui vient de nous rejoindre. Comment on peut faire en sorte de monter un projet qui soit un projet positif pour la vaccination des personnes à risque avec une CPTS, toi qui as l'habitude de ces structures qui, pour un certain nombre de personnes, sont des structures encore un peu difficiles à comprendre?
Bien, en général, on part des besoins de la population. Les diagnostics qui sont réalisés déjà par les caisses primaires nous sont extrêmement utiles. Et vous savez que dès la constitution d'une CPTS, on doit construire un projet de santé. Pour construire ce projet de santé, on analyse tous les besoins de la population du territoire. Je vais prendre un exemple simple. Nous, même dans le sud de la France, la CPTS, elle est à Agde. Agde, Cap d'Agde, vous voyez, ce n'est pas la zone la plus reculée de France. Bon. Nous manquons cruellement de médecins traitants. Eh bien, le sujet numéro un qui a été, c'est comment attirer des médecins dans notre territoire, c'était un des premiers. Le deuxième, vous allez voir comment on construit un projet comme ça, c'est la sortie de l'hôpital. Tout le monde, tous les professionnels râlent sur la sortie de l'hôpital et chacun vient raconter la sienne et dire ben moi, voilà ce que j'ai vécu, j'ai pas eu le matériel, j'ai pas eu les médicaments, j'ai pas eu le professionnel qu'il me fallait, etc. Et on se met tous autour de la table et on analyse. Les freins à une meilleure coordination. L'hôpital en général est là, les professionnels de l'hôpital sont là, et on analyse, et à partir de là, on construit un projet. Sur la vaccination, on a fait pareil. On a été moins réactifs qu'on le souhaiterait parce que nos CPTS n'étaient pas encore bien formalisés, mais on voit bien que partout où il y a eu des CPTS, les centres de vaccination ont fleuri rapidement et on n'a pas eu besoin de toutes les mairies. Donc, tout ce que l'on peut faire à partir des besoins qu'on analyse, on y arrive. Le sujet, on voit un des sujets primordiaux au-delà de la vaccination qui inquiète tout le monde, c'est effectivement, si vous voulez, la psychiatrie. On a beaucoup de mal dans nos communes à orienter les patients, etc. Eh bien, on fait un sujet là-dessus et hop, on construit un protocole avec tous les professionnels de santé. Et je pense, et les patients, j'insiste, hein, vous allez dire que j'insiste beaucoup, mais c'est bien eux qui sont au cœur du sujet et les associations. Donc, c'est à partir des besoins du territoire que l'on peut construire. Et je prends l'exemple du tabac. Ben, on est allé dans les marchés locaux. Vous savez que nous, nos touristes sont très attirés par les marchés de nos communes. Eh bien, nous sommes allés sur les marchés pour défendre le sevrage tabagique, etc. Donc, je crois que toutes les actions que l'on peut faire, il suffit de les construire ensemble et on arrive à les médiatiser et après à les réussir. Mais bon, ensemble.
Je crois que le fait de construire ensemble est quelque chose qui est tout à fait important. Et ça devrait être à la base de toutes les actions dans le domaine de la santé. Alors, très heureux d'accueillir Alain Fischer. Alain Fischer, vous êtes professeur et président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale du gouvernement contre la pandémie de la COVID-19. Je ne sais plus si on dit la COVID ou du COVID-19 maintenant. J'ai cru qu'il y a une académie qui nous avait dit qu'il fallait féminiser la COVID. Donc, c'est pour ça que j'essaie de garder ce patronyme. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des grandes tendances de la stratégie vaccinale actuelle, peut-être demain nous dévoiler quelques informations sur ce qui risque de se passer, et puis de nous parler également de ce que vous voyez tout à fait spécifiquement à faire pour les personnes qui sont les personnes dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire les personnes immunodéprimées ou à risque accru d'infection.
Oui, bonjour à tous. Je vais essayer de répondre à ces questions. Et bien, bon, vous savez tous, j'enfonce une porte ouverte en disant que la vaccination reste l'arme essentielle, pas unique, bien sûr, mais l'arme essentielle de lutte contre cette pandémie de Covid. Que même si on se plaint de beaucoup de choses à juste titre, cette arme est assez bien utilisée en France, puisque pas loin de 92% de la population âgée de plus de 12 ans a reçu au moins une dose de vaccin, mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a 8% de personnes qui ne sont pas vaccinées, et puis parmi les 92% qui ont reçu au moins une dose, il y en a encore beaucoup qui n'ont pas reçu de rappel, et le rappel est absolument essentiel dans le contexte actuel. Donc chacun connaît le contexte actuel, qui est qu'il y a encore, il ne faut pas l'oublier, du variant Delta, qui est relativement sévère dans ses conséquences, et beaucoup de personnes encore hospitalisées sont infectées par le variant Delta. Et puis, bien sûr, ça va, vous m'entendez? Parce que j'ai eu une espèce de coupure, j'espère que ça va. Le variant Omicron, donc, est responsable d'un très, très grand nombre de cas, donc on n'est vraiment pas loin du pic épidémique avec 300-350 000 cas par jour. Donc un variant qui est à la fois plus transmissible et sévère. Pour fixer les idées, même si c'est un tout petit peu approximatif, il est probablement 80% plus transmissible et 80% moins sévère. Et dans le plus transmissible, ça fait intervenir à la fois une notion intrinsèque de transmissibilité et une résistance partielle à l'immunisation. Donc ça, c'est une notion importante, c'est quel est le degré d'efficacité des vaccins contre Omicron. Le vaccin qui reste, le vaccin traditionnel qui est fondé sur la souche historique initiale du virus, eh bien, elle est moindre qu'elle n'était contre les variants précédents, mais elle reste, et c'est ça qui est le point clé, tout à fait efficace, et en particulier le rappel, d'où le fait d'insister sur le rappel. Il y a encore 25%, 24% de personnes âgées de plus de 65 ans qui n'ont pas eu le rappel, et sûrement beaucoup, je n'ai pas les chiffres aujourd'hui, on les attend de la CNAM, beaucoup de personnes qui ont des pathologies chroniques. Je mets à part les personnes très immunodéprimées, donc je dirai un mot tout à l'heure, mais les personnes à risque avec différents types de pathologies. Donc on a besoin d'avoir ces chiffres, mais on sait qu'il y a encore beaucoup de personnes qui doivent recevoir le rappel. Donc après rappel, on obtient un degré de protection contre l'infection, qui est de l'ordre de 70 à 75%, mais contre l'infection grave, c'est comme ça qu'on recherche au moins pour les malades, qui est de 90% et qui est stable sur 3 mois. L'information est arrivée de Grande-Bretagne ces jours-ci. Donc, c'est une notion extrêmement importante. Le rappel est nécessaire, indispensable et efficace. Ben, 100%, mais très efficace. Et de fait, d'ailleurs, quand on regarde les statistiques provenant de l'adresse et qui ont été très bien imagées sur le site de Guillaume Rosier, Covid Tracker, Vax Impact, je fais sa publicité parce que c'est remarquable, les courbes montrent que les personnes qui ont eu leur rappel, y compris les personnes très âgées, malheureusement, il n'y a pas encore de données pour les patients avec des maladies, mais les personnes très âgées, ça parle, parce qu'elles sont aussi évidemment très fragiles, et que leur niveau de protection est bon, puisque si on regarde sur la fin de l'année, novembre-décembre, il n'y a pas eu d'augmentation significative du nombre de personnes hospitalisées, de personnes entrant en soins critiques, alors qu'il y a eu une augmentation du nombre de cas, bien évidemment. Donc, j'insiste sur la nécessité absolue que chacun reçoive un rappel. Et voilà, pour ce point-là. Alors ensuite, d'une manière générale, en termes de stratégie concernant les malades fragiles, je rappelle que les malades à le plus haut risque, ce qu'on a appelé à l'époque les ultra-haut risques, c'est pas très joli comme expression, mais ont été éligibles à la vaccination dès le tout début, en janvier dernier, et que progressivement, les personnes avec différents types de pathologies chroniques présentant un risque de Covid plus sévère ont été éligibles en fonction de leur âge, progressivement, février, mars, etc., jusqu'aux enfants fragiles le 15 décembre dernier. Je ne reviens pas sur les détails. Et pour toutes ces personnes, le rappel est ouvert depuis le 1er septembre et aujourd'hui, on indique, et je pense que c'est raisonnable, que le rappel doit être fait sans attendre 3 mois passé la primo-vaccination. Il faut pas ne pas attendre plus, ça n'a pas de sens, compte tenu de ce que je viens de dire sur l'efficacité, pas parfaite, bien sûr, mais remarquable du rappel. Donc, si on regarde la situation aujourd'hui pour les patients atteints de différents types de pathologies, encore une fois, malheureusement, on n'a pas encore les données concernant le rappel. Donc, pour l'instant, je ne parle que de données concernant la primo-vaccination complète. On s'aperçoit qu'environ, d'après les données de la CNAM, 90% de patients atteints des différents grands groupes de maladies chroniques, cardiovasculaires, auto-immunes, neurologiques, etc., 90% sont primo-vaccinés. On peut voir l'arbre, le verre comme relativement bien rempli, mais il y a quand même 10% qui ne sont pas vaccinés du tout et qui s'exposent à des situations de risque majeures dans un contexte d'une épidémie aussi forte, même si les conséquences sont moins sévères en termes de maladie, il y a tellement de cas que malheureusement cela compense. Et il y a certaines situations de pathologie chronique où les chiffres sont même en dessous et donc ils méritent une attention plus particulière. Je citais par exemple les patients atteints de sclérose en plaques où la couverture est de 84%, ça veut dire qu'il y a 16% des patients en France qui ont une sclérose en plaques qui ne sont pas vaccinés. Alors je sais que de temps en temps, j'ai eu déjà des discussions sur ce sujet, c'est pour ça que j'insiste là-dessus quand même, c'est que ces personnes craignent, ou parfois même leurs médecins craignent que la vaccination soit dangereuse, compte tenu des allégations passées qui se sont avérées inexactes de risques inhérents de poussée de sclérose en plaques liées à la vaccination contre l'hépatite. Cette affaire est tombée et vraiment, j'insiste pour que ces personnes soient vaccinées. Mais on pourrait encore citer les maladies inflammatoires de l'intestin, 87%, les patients atteints d'épilepsie, 85%, et puis, alors, plus difficile encore, les patients en situation d'addiction, addiction alcoolique, 84%, et addiction aux opioïdes, 69%. Donc, ce sont des malades à haut risque, extrêmement exposés, et il faudrait faire un effort, là, c'est l'effort de primo-vaccination, hein, je ne parle même pas du rappel. Donc, Et je pourrais continuer, les patients en situation de surpoids, d'obésité sévère, 87% sont vaccinés, donc 13% ne sont pas. Ça représente du monde. Donc là, il y a vraiment un effort à poursuivre par tous les moyens possibles. Donc ces moyens, évidemment, toutes les approches d'aller vers sont nécessaires, mais on sait à quel point elles sont quand même difficiles. Et en termes d'information, de sensibilisation, il y a un rôle majeur à jouer, et des associations de malades, c'est une évidence, et je sais que cela se fait, mais je veux dire qu'il faut poursuivre l'effort ardemment, et bien sûr des médecins concernés, des sociétés savantes, enfin bref, de tous les acteurs de santé, et de tous les acteurs malades, ou de leurs familles, pour faire que les personnes avec ces facteurs de risque se vaccinent sans attendre, elles s'exposent vraiment gravement. Et donc, primo-vaccination et rappel, je n'ai pas de chiffres sur le rappel, mais et évidemment, cela est important. Et puis, je voudrais terminer par eux, le groupe des patients très profondément immunodéprimés, donc à peu près 250-300 000 en France, les patients en dialyse, les patients qui ont eu des grèves d'organes, les patients qui ont eu une grève de moelle osseuse récemment, les patients cancéreux pour certains types de chimiothérapie, je ne détaille pas, les patients atteints de maladies auto-immunes avec des traitements immunosuppresseurs sévères, ou encore les patients avec une trisomie 21. Enfin, il y a un groupe de malades à ultra haut risque parce que malheureusement, leur capacité de répondre à la vaccination est moindre. Alors, heureusement, elle n'est pas nulle. On peut rattraper, entre guillemets, l'efficacité de la vaccination pour une fraction de ces personnes au prix d'une augmentation du nombre de doses. Vous savez que ça a été préconisé et je l'espère mise en œuvre autant que faire se peut, de faire 3 doses, voire dans quelques cas 4 doses de primo-vaccination. Et ensuite des rappels tous les 3 mois. Et on recommande aujourd'hui, on a encore réinsisté récemment sur le fait que pour ces personnes qui ont déjà eu un rappel, donc première vaccination, 1, 2, 3 premières, puis rappel, pour elles, contrairement au reste de la population, aujourd'hui, il faut faire 3 mois ou 4 mois après un second rappel. Il ne faut pas attendre. C'est vraiment ainsi qu'on peut arriver à les protéger. Et donc il est important que ce schéma soit bien connu des malades, de leur médecin, évidemment, et que cela soit suivi. Donc, ça fait à nouveau appel à la sensibilisation de tout le monde. Et puis, donc, une fraction d'entre eux, malheureusement, ne répondent pas du tout. Et donc, ces patients doivent pouvoir être protégés par l'utilisation d'anticorps monoclonaux. Ce qui devient un peu plus compliqué avec le variant Omicron, parce que malheureusement, plusieurs préparations d'anticorps monoclonaux disponibles ne sont pas efficaces sur le variant Omicron. Il reste que la préparation Evusheld, qui est disponible, garde un certain degré d'efficacité, elle est moindre, mais a une efficacité. Donc sans doute, ça veut dire qu'au lieu d'avoir une injection tous les 6 mois intramusculaire de ce produit, il faudra peut-être l'avoir de façon un peu plus rapprochée. Mais là, je voudrais insister sur l'utilisation prophylactique pour protéger ces personnes par cet anticorps, par cette combinaison d'anticorps, parce que c'est 2 anticorps, qui n'est pas assez administrée en France aujourd'hui. Il n'y a que quelques milliers de personnes qui ont reçu cet anticorps, alors qu'il y a 50 000 doses disponibles et probablement à peu près 100 000 personnes qui en ont besoin. Donc là aussi, il y a un effort très important à faire. Je crois que la sensibilisation des médecins s'est améliorée, beaucoup de patients sont au courant, mais peut-être pas encore tous, pas assez. Et il y a des efforts qui sont faits. C'est un peu compliqué au niveau de la délivrance du produit. Je ne vais pas entrer dans trop d'aspects techniques, mais il y aura probablement un rôle important à jouer par les centres hospitaliers qui sont en charge de ces patients pour que ces anticorps soient administrés. C'est vraiment essentiel pour sauvegarder la vie et permettre à ces personnes d'avoir une vie convenable. Et puis, je ne peux pas ne pas me permettre, même si ça dépasse ce cadre, et puis je sais que tous les auditeurs ici y sont sensibles, c'est que pour protéger ces personnes, il y a une autre façon de faire, c'est que tout le monde se vaccine dans la population. Il est de bon ton, malheureusement, chez certains hommes politiques, de dire que la vaccination des jeunes, ça ne sert à rien, parce que le vaccin ne protège pas contre l'infection, donc la transmission. C'est juste faux. La réalité, c'est bien sûr que les vaccins sont moins efficaces en termes de protection contre la transmission qu'ils ne le sont qu'en termes de protection contre la maladie grave, mais il y a quand même une protection contre la transmission. À nouveau, si vous retournez voir les courbes auxquelles j'ai fait allusion sur le site Vax Impact, je vous invite à les regarder, de Vax Impact de Covid Tracker mis en place par Guillaume Rosier, vous verrez qu'il y a un effet sur l'infection qui est d'un facteur 3, un facteur 4, c'est loin d'être négligeable. Donc si on réduit de 3 fois ou 4 fois le nombre d'infections, même si a fortiori quand il y en a beaucoup, ce n'est pas parce qu'il y en a beaucoup qu'il faut baisser les bras. Il faut le faire, parce qu'à chaque fois qu'on fait cela, eh bien, on contribue à protéger les personnes fragiles. Et je pense que, de mon point de vue, il faut marteler cet argument et s'élever vigoureusement contre ceux qui prétendent que la vaccination n'a pas de fonction altruiste. Elle a une fonction altruiste et elle est absolument essentielle. Voilà, je m'arrête là dans mon propos.
Merci beaucoup pour ces explications très claires et ce plaidoyer. Je pense que ça fait partie des choses qui est à entendre. Alors, on est également dans une situation où il y a bien entendu la problématique de la COVID, mais on en a parlé déjà ce matin, il y a la problématique des autres vaccinations. Et est-ce qu'on ne pourrait pas, par rapport à ces populations qui sont des populations à risque, est-ce qu'on ne pourrait pas, d'une certaine manière, étendre le message de la vaccination de la COVID à d'autres vaccins? On a parlé de la grippe, on a parlé de la coqueluche, du ror, du pneumocoque, dont on ne parle plus à l'heure actuelle. Et puis on s'aperçoit que les couvertures vaccinales, en particulier chez les personnes à risque, sont des couvertures qui stagnent de manière importante. Et comme dans toute pathologie et fragilisation des personnes, on peut avoir une infection opportuniste par une pneumonie ou par autre chose, un syndrome grippal sévère, qui fait que la personne court des risques à ce moment-là qui sont importants. On ne vous entend plus. Vous êtes en mute. Non, vous êtes toujours en mute.
On va couper mon son. C'est pas grave. Non, mais il n'y a pas de problème. Vous avez complètement raison. Pour la grippe, on a essayé d'en parler beaucoup à l'automne. Alors, ce n'est pas encore trop tard de se vacciner contre la grippe, donc ça vaut encore la peine. Et vous avez raison, et je rappelle au passage qu'on peut se vacciner le même jour contre la grippe et contre le Covid. Il n'y a pas de problème. S'il y a 0 jour, 5 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours de décalage, c'est bon dans tous les cas. Mais vous avez évidemment aussi raison d'attirer l'attention sur les autres vaccins. Là, c'est compliqué parce que c'était déjà compliqué avant le Covid. Le taux de vaccination contre le pneumocoque, par exemple, d'un certain nombre de ces personnes à risque, est malheureusement, les chiffres que j'avais pu lire, assez faible. Mais ce n'est pas une raison de baisser les bras. Et peut-être, après tout, comme vous le dites, on peut essayer de raisonner en globalisant l'effort de vaccination. Et bien sûr, il faut que ces personnes, beaucoup de ces personnes, les profondément immunodéprimés, mais un certain nombre d'autres que j'ai cités aussi, qui sont moins immunodéprimés, reçoivent ces vaccins. Moi, je mettrais le pneumocoque en tête, qui est quand même un facteur de risque d'infection bactérienne grave chez des sujets immunodéprimés, qui est très important, même si ce que vous avez cité aussi compte. Mais ce n'est pas facile en termes de message, il faut reconnaître, parce qu'il y a, l'effet d'accumulation, comme chacun le sait, à la fin, peut être contre-productif. Donc, il faut trouver la bonne balance. Je pense que le collègue singulier, dans ce cas-là, à mon avis, entre le médecin et le patient, est vraiment important, parce que c'est à l'échelle individuelle, je pense, qu'on peut essayer de passer le mieux ces messages.
Mais écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas, je vois pas de questions particulières posées par nos auditeurs, donc je vais demander à Yves Buisson de nous faire une synthèse, encore une fois, de ce qu'il a pu tirer de cette table ronde, et puis on passera ensuite à la table ronde numéro 3 sur la sensibilisation, l'information des patients et puis de ceux qui les entourent également.
Oui, je crois que ce qu'on vient dans l'intervention d'Alain Fischer, que je salue, est extrêmement importante. Hein. Je crois qu'il a dit l'essentiel. C'est très difficile à résumer. Je voudrais juste, puisque il est toujours à l'écoute, lui poser une question. On voit beaucoup de gens, et surtout dans le monde médical, hein, les gens qui sont un petit peu orientés vers le, qui s'occupent plus effectivement de suivi de la vaccination, pratiquer pour eux-mêmes ou pour leurs membres de leur famille ou pour leurs amis, des sérologies pour savoir où ils en sont, si la vaccination est efficace ou pas. Personnellement, je les dissuade en leur disant que les tests ELISA sont des tests de diagnostic rétrospectif d'une infection Covid, mais ils ne sont pas faits pour suivre l'évolution des anticorps, puisqu'ils ne détectent pas spécifiquement les anticorps neutralisants. Alors, on doit utiliser, je suppose, ces tests pour les détections d'anticorps neutralisants pour les personnes immunodéprimées, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire passer ce message de ne pas recourir comme ça abusivement aux tests ELISA pour en tirer des conclusions qui, de toute façon, ne seront pas adaptées sur la suite du programme vaccinal?
Totalement d'accord. À titre personnel, je ne connais pas mon titre d'anticorps. Et on sait que ces dosages sont relativement illusoires, en tous les cas à l'échelle individuelle, puisque, juste comme vous venez de l'indiquer, on n'a pas le titre des anticorps neutralisants. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier que l'immunité, ce n'est pas que les anticorps, c'est aussi l'immunité cellulaire qu'on ne teste pas. Donc ça ne sert strictement à rien. On l'a pas mal dit, mais je suis d'accord qu'il faut répéter, comme toujours, ce message de l'inutilité à titre personnel pour chacun. C'est vrai que c'est un travers du milieu médical. En cela, à mon avis, ils sont irrécupérables, si je peux me permettre. Mais ce que je vois autour de moi, alors là, je connais pléthore de médecins qui suivent leur anticorps tous les 15 jours. Bon, bref, ça sert à rien. En tous les cas, il faut essayer de convaincre les personnes qui peuvent l'être et dans la population en général. Autant il faut être vigilant sur ces dates de vaccination, ne pas rater les bonnes échéances, mais ne pas se fier à des types d'anticorps qui ne nous aident pas et qui peuvent même conduire à des attitudes dangereuses, c'est-à-dire de ne pas se vacciner alors qu'en fait, on n'est pas protégé.
Oui,
alors on merci. Oui.
Merci beaucoup pour cette réponse. L'autre chose simplement que je voulais dire, parce que, encore une fois, l'intervention d'Alain Fischer était très importante, là, c'est ce chiffre qui fait froid dans le dos quand même. 10% des personnes à haut risque n'ont pas reçu une seule dose de vaccin. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui... si on doit retenir une chose, c'est ça. C'est-à-dire, s'il faut agir, c'est là. Les futurs entrants en réanimation et malheureusement les futurs décès par Covid se comptent en grande partie parmi ces 10%. Et je crois que là, il faut vraiment agir d'une façon ou d'une autre. Mais il faut que les pouvoirs publics prennent des décisions pour qu'on puisse, d'une façon ou d'une autre, vacciner ces personnes-là.
Alors, moi, je suis complètement d'accord, Yves, par rapport à cette réflexion. Il y a encore deux questions. Il y a José de Félicie qui veut poser une question et Clotilde, donc de Rennes-Allou, qui veut faire aussi une intervention. José de Félicie, vous pouvez mettre votre caméra et vous pouvez vous présenter. Ah, on ne vous entend pas de toute façon, vous êtes en mute, non? Non, le micro est branché pourtant. Posez votre question. Alors, je vais passer la parole à Clotilde tout de suite pour garder le rythme. Et essayez de vous brancher. Et dès que vous êtes branché, mettez votre caméra, comme ça je vous passerai la parole. Clotilde, tu voulais intervenir?
Oui, je me fais peut-être juste le relais d'une question qui a été posée dans le chat et qui, je pense, n'a pas été transmise. N'est-il pas trop tard pour pousser les non-vaccinés à se faire vacciner? puisqu'ils n'auront une protection dans le meilleur des cas que dans un mois, primo-vaccination à deux doses. S'ils se font vacciner aujourd'hui ou dans 4 mois, avec le rappel, alors qu'Omicron est déjà bien présent. Merci. Alors, donc, voilà, je trouve que c'est une question peut-être qui mérite une réponse, peut-être du professeur Fischer.
Oui, c'est une très bonne question. Je pense qu'il n'est jamais trop tard, parce qu'on ne sait pas très bien ce qui se passera dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, même si on a, comme on l'entend, quelques espoirs de voir l'épidémie s'atténuer, mais on n'en est pas sûr. Il y aura peut-être de nouveaux variants, espérons que non. Enfin bref, et la situation ne va pas redevenir à zéro cas ou très très peu de cas avant un certain temps. Donc même si, bien sûr, il y a un délai pendant lequel ces personnes ne seront toujours pas protégées, mais il vaut mieux être protégé dans un mois que pas du tout. Ça me paraît évident. Mais même s'il restera une zone, enfin, un temps de non-protection. Malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse considérer que dans 2 mois, l'épidémie de Covid est terminée. Je pense que c'est une vision tout petit peu optimiste, même si on peut espérer que les choses s'améliorent. Hein. Je ne dis pas le contraire non plus. Mais il faut considérer qu'il faut être protégé, non seulement idéalement en janvier 2022, mais également en février, et surtout en mars, avril, mai, juin, etc. Donc, non, il n'est pas trop tard. Mais il est urgent de le faire.
Alors, on a une autre question. Je ne sais pas si José de Félix a réussi à se brancher. Je crois, pour le moment, en tout cas, je n'ai pas le son, ni l'image. Mais on parlait des élus locaux tout à l'heure, et on a Véronique Guillotin qui veut poser une question. Véronique Guillotin est donc sénatrice de Meurthe-et-Moselle, et elle est également conseillère régionale de la région Grand Est, dont on parlait tout à l'heure, en disant plus grand bien d'ailleurs sur le plan de la mobilisation de ses acteurs. Elle est présidente de la commission de santé de la région Grand Est. Véronique, je vous passe la parole tout de suite.
Branchez votre micro, vous êtes en mieux. Bonjour à tous. Ça y est, c'est bon ?
Oui, c'est bon.
Vous m'entendez ? Ouais, okay. Bonjour à tous, et je rebondis un peu sur les propos Dr Fischer. En fait, on a terminé hier l'examen du pass sanitaire au Sénat. Et la conclusion que j'en tirais, bon déjà, le pass vaccinal a été voté, bon, avec quelques modifications pour lesquelles je n'étais pas complètement d'accord sur l'ensemble, mais bon, il a été voté. Par contre, quand on écoute un peu les débats et quand on regarde ce qui peut en ressortir, effectivement, il y a un gros, gros, gros problème de communication et de pédagogie à faire. Car même au niveau de notre enceinte et de cette assemblée, enfin, il y a des messages qui passent qui sont complètement anti-scientifiques sur plein de sujets. Vous parlez des anticorps, on a eu un débat long sur les anticorps où chacun essayait de comprendre pourquoi le taux d'anticorps sans comprendre qu'il y avait une immunité cellulaire, humorale, en se disant « moi j'ai beaucoup d'anticorps donc je ne me vaccine pas, c'est trop dangereux », etc. Mais tous ces débats avaient lieu dans une haute assemblée. Retransmise, vue par la population, donc qui pouvait conforter en fait chez certains peut-être leur conviction. Alors quand elles étaient bonnes, c'était très bien, mais quand on avait des voix dissonantes, et ben en fait ça réactivait les doutes d'une population ou de groupes qui pouvaient se dire bah oui, mais puisque de toute façon certains disent que c'est vrai, effectivement j'ai des anticorps donc c'est dangereux. Voilà, on avait ce débat-là, on avait le débat de la femme enceinte. Qui a émergé avec des amendements en fait pour demander de supprimer ce pass vaccinal pour les femmes enceintes parce que les risques, etc. Enfin, voilà, donc tout ça pour dire que les débats qui ont lieu encore aujourd'hui, 2 ans après, n'ont encore pas fait complètement une totale place, une totale confiance en la science. Et je pense qu'il faut redoubler de pédagogie. Il faut qu'il y ait des tutos. Moi, je ne sais pas, mais il faut imaginer des formes de communication courtes avec des explications scientifiques concrètes et essayer d'apporter la vérité à ceux qui peuvent encore douter et qui sont capables de l'entendre, parce que pour certains, ça reste plus idéologique et de toute façon, ils ne voudront pas comprendre. Voilà, c'était juste pour raccrocher ça au débat de cette nuit, puisque c'était éminemment récent.
Et on en parlera tout à l'heure dans la table ronde dans laquelle vous participez, Véronique. José de Félix, on vous a retrouvé. Donc, si vous voulez poser la question, et ça sera la dernière question qu'on prendra sur la table ronde, et puis on passera à la table ronde suivante. Alors, là, on ne vous entend pas. On n'a pas le son. Je suis vraiment désolé.
Cliquez sur l'icône du micro, madame.
Mais le micro est... Non, mais écoutez, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Essayez de poser la question dans le chat, et puis, parce qu'on ne peut pas prendre trop de retard par rapport à notre planning. Et puis, on transmettra la question, bien entendu, et on essaiera d'apporter, avant la fin du débat, de vous apporter des éléments de réponse. Ben, vraiment, je remercie Gisèle Schmitt, Eric Achula, Marie Ogécomon et Clotilde Guénon, et Alain Fischer pour cette table ronde qui a été passionnante. Comme l'a dit tout à l'heure Yves Buisson,